Le 51e congrès de la FPI France, jeudi 1er juin 2023, au Beffroi de Montrouge, sur Radio Imo.
Bonjour, bienvenue à tous. On se retrouve en direct du Beffroi de Montrouge pour le 51e congrès de la FPI, Fédération de la Promotion Immobilière, ici à Montrouge, et nous accueillons Jacques Herman. Bonjour Jacques.
Bonjour, ça va ?
Directeur général du groupe Altarea. Voilà, expert de la transition urbaine, de la transformation urbaine, comme vous nommez vous-même, avec, c'est vrai, un groupement de plusieurs promoteurs.
Oui, en fait, la transformation urbaine, parce que ce dans quoi nous excellons, c'est travailler à l'échelle de la ville ou d'un quartier de ville, et non pas à l'échelle d'un immeuble. Voilà. Et donc, nos plus grandes réussites, c'est par exemple ici, Cœur de Ville, ici les Moulineaux, c'est quand on nous confie un gros projet de 100 000 m² oui, sur 3 hectares en pleine ville de reconfiguration. Et on y fait du logement, du bureau, des restaurants, des commerces, des cinémas, de la géothermie, des forêts urbaines. Et finalement, on crée un quartier, on crée une vie de quartier. Et c'est là que tous les métiers du groupe se combinent pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Mais on fait aussi des immeubles.
D'accord. Bah oui, il faut des immeubles, bien sûr, au sein de ces îlots, de ces quartiers. D'ailleurs, on a l'impression qu'aujourd'hui, pour remporter auprès des grands décideurs ces nouveaux quartiers, il faut avoir cette vision d'ensemble, c'est avoir cette concertation avec les habitants, faire de la co-construction et avoir vraiment un projet, en passant bien sûr par toute la gamme bas carbone, environnement friendly, etc. Mais on a l'impression qu'il faut aujourd'hui cette vision à amener directement aux décideurs.
Il faut de la vision, il faut de la concertation, il faut un consensus local, politique, citoyen, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Il faut aussi maîtriser un grand nombre de métiers. Voilà. Il y a plein de promoteurs qui savent faire du logement. Savoir faire cette combinaison, cette espèce d'assemblage, comme on dit dans les vignobles, c'est beaucoup plus difficile. Nous, on vient du métier du commerce. Donc, on sait faire des pieds d'immeubles, des quartiers de commerce, des restaurants, des hôtels, des cinémas, etc. C'est notre ADN. On a, avec l'acquisition de Cogedim en 2008, puis de Histoire et Patrimoine, de Pitch, et plus récemment de Wodeum, complété notre palette. Mmh. On complète aussi notre palette en apprenant à faire des data centers, du photovoltaïque, plein de la logistique, plein de nouveaux métiers qu'on a ajouté ces derniers mois, ces dernières années à notre palette. Et donc finalement, on sait à peu près tout faire dans la transformation de la ville. Et c'est notre passion. Voilà, alors évidemment, ça ne nous est pas toujours donné cette occasion, puisque c'est un peu le travail des aménageurs. Et c'est assez rare de pouvoir maîtriser en tant que privé un très grand foncier et d'y proposer une solution pour la ville, une solution de quartier. Alors, évidemment, ça se fait souvent avec les aménageurs qui savent qu'on est un peu différent parce qu'on sait faire ça.
Voilà. Une solution d'ensemble, c'est vrai qu'il faut avoir la capacité, les moyens. Vous êtes aujourd'hui le deuxième producteur de logements avec 10-12 000 réalisations par an. Et pourtant, vous êtes au cœur du sujet. Aujourd'hui, on sent que cette promotion immobilière, elle est grippée pour tout un tas de raisons. La faute au financement depuis un an, le robinet du crédit pour les investisseurs et pour les particuliers, c'est plus ou moins tari. Comment vous voyez cette situation, Jacques Herman ?
Alors attention, parce qu'il y a plusieurs niveaux de crise. D'abord, la vraie crise sociétale, très dangereuse pour la société avec un grand S, c'est la crise du logement dans son ensemble. Que ce soit le logement existant ou le logement neuf, que ce soit le social, que ce soit l'intermédiaire, etc. Toutes les catégories, tout le système est grippé. Et donc, certains politiques veulent faire croire qu'il y a juste une crise de la promotion immobilière et que c'est presque le problème des promoteurs. C'est pas ça. La France a un problème avec le fait de loger les Français. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui est en attente, qui sont sur des listes d'attente pour trouver un logement. Il y a des gens qui font 40 km entre leur logement et leur travail. Il y a des gens qui restent chez leurs parents, d'autres qui restent avec leurs conjoints dont ils ont divorcé. On a une vraie crise du logement. Il manque énormément de logements en France. Ça, c'est la vraie crise. À l'intérieur de cette vraie crise que personne ne doit dénier, d'ailleurs que de moins en moins de gens dénient, et vous l'avez vu dans la presse ces derniers temps, il y a effectivement une crise de la promotion du logement neuf qui est incontestable et qui elle-même est la combinaison de trois composantes, une crise de l'offre, une crise des coûts et une crise de la demande. La crise de l'offre remonte à plutôt 2019, c'est pas assez de permis, trop peu de terrain, ça va pas s'arranger avec la zéro artificialisation. des terrains trop chers, trop de spéculation, trop de concurrence entre nous tous pour acheter des terrains un peu trop chers.
Oui.
Des réticences fortes des maires, pour des raisons plutôt légitimes, mais qu'il faut absolument qu'on traite, à délivrer des permis de construire, à construire. Donc, ça, c'est la crise de l'offre. Et c'est un vrai problème par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'insuffisance du stock de logements. S'il n'y a pas assez de stock et qu'on n'arrive pas à produire, ça fait un double problème qui s'aggrave. Après, il y a la crise des coûts. Alors, on a subi successivement, on l'a dit, la spéculation foncière sur le prix des fonciers, la très forte hausse des coûts de construction avec la pandémie, le dérèglement de la chaîne logistique mondiale, puis la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie. Et c'est le moment qu'on a choisi, entre guillemets, pour mettre en vigueur la RE 2020 qui coûte en gros 7% de plus.
Oui.
Vous combinez tout, des terrains qui flambent en partie à cause de nous, des coûts de construction qui explosent à la suite de la pandémie, de la guerre en Ukraine et des normes rehaussées. Et vous avez ce qu'on a aujourd'hui, un coût du logement qui est trop cher. J'oubliais un truc majeur. On nous force à vendre les logements sociaux dans le cadre des VFA sociales à très forte perte et on doit répercuter cette perte sur le prix du logement libre. Ça s'appelle un impôt déguisé dont personne ne parle, mais qui vient renchérir encore.
Ça veut dire que vous perdez de l'argent sur les logements sociaux.
On perd beaucoup d'argent sur les logements sociaux qu'on vend à des oligopoles de bailleurs sociaux qui s'entendent sur les prix avec la connivence des maires. Voilà, c'est des mots assez forts que j'assume un par un. Et ça, c'est un vrai problème parce que tant qu'il y avait des taux d'intérêt à 1%, qu'on avait du pricing power, qu'on pouvait augmenter les prix tout en trouvant des clients, tout se passait bien, il y avait une espèce de tranquillité générale, etc. C'est plus le cas, les clients n'ont plus les moyens d'acheter, que ce soit des accédants, des investisseurs privés, des institutionnels qui ont disparu, et même des bailleurs sociaux dont les coûts de financement ont rehaussé. Donc le problème des prix de vente, qui sont pas loin des prix de revient, puisqu'on fait très peu de marge dans ce métier, surtout en ce moment, est devenue majeure. L'une de ces sources cachées, dont personne ne parle, c'est le fait qu'on vende les logements sociaux à perte.
Voilà. D'accord.
Donc, et puis, crise de la demande. Donc, on en vient au troisième problème, qui est le problème de la demande. Elle est complètement en panne. On a de gros problèmes pour vendre nos logements. On les vend lentement. On doit faire des offres, des aides à la vente, des petites baisses de prix, notamment sur les grands appartements, T4, T5, etc., alors qu'on n'a déjà pas beaucoup de marge. Donc les marges de manœuvre sont très limitées. Et ces problèmes de demande, ils sont liés à une désolvabilisation générale de tous nos acheteurs. On l'a dit, accès au crédit, taux d'usure, taux d'effort, pas d'incitation fiscale on continue à faire disparaître le Pinel. Renchérissement des coûts de financement des institutionnels et des bailleurs sociaux. Et donc finalement, ça, c'est une équation extrêmement complexe où l'offre est insuffisante, les coûts de revient sont trop élevés et la demande n'est plus là. Et nous sommes des industriels. On ne peut fabriquer que ce qu'on est sûr de vendre avec une petite marge. Si on n'arrive pas à vendre ou si on arrive à vendre sans marge, on va ralentir notre production et on va donc aggraver le problème de ce pays qui est l'insuffisance de logement pour les Français.
Alors, merci beaucoup, Jacques Herman, pour ce constat assez sanglant, on va dire, et puis sans langue de bois. Aujourd'hui, il y a un maître mot, c'est oser sur ce 51e congrès de la FPI. C'est oser aussi des solutions, des pistes de solutions. Que faudrait-il faire, à votre avis ?
Alors, vous avez vu qu'il y a plein de causes. Et donc, il faut aller chercher plein de micro-solutions et les combiner les unes avec les autres. Et donc, il n'y a probablement pas une solution, une martingale, comme il y a pu avoir dans le passé, qui décoincerait tout.
Voilà.
Il faut agir.
Ce ne sera pas un grand plan Pinel Plus ou...
Si, il faut faire une série de plans et il faut un plan d'urgence parce que là, la situation est une situation de crise extrêmement forte. Et puis, il faut travailler aussi sur des mesures structurantes. Alors, clairement, décoincer l'offre, c'est plutôt du structurant ou du structurel que du conjoncturel. On peut demander à nos amis aménageurs et établissements publics fonciers, de mettre du foncier sur le marché pas trop cher et vite. Et aux maires de délivrer des permis de construire.
Mais les maires, ou d'appliquer les PLU.
De simplement appliquer les PLU qu'ils ont eux-mêmes validés, oui, tout à fait. Mais pour ça, ils ont des questions légitimes. Comment je finance ma crèche? Comment je finance mon école? Pourquoi je n'ai pas plus de ressources fiscales si ma population se développe que si elle ne se développe pas? Aujourd'hui, c'est ça la situation. Un maire qui développe sa ville, qui accueille les nouvelles populations, n'a pas plus de ressources fiscales qu'un maire qui ne le fait pas. Mmh. Et donc, où est l'incitation ? Où est l'alignement ? Et donc, à juste titre, les maires nous objectent que ce n'est pas très intéressant pour eux et qu'en plus, ça crée toujours des perturbations de construire. Donc ça, c'est un sujet structurel auquel la commission Rebsamen s'est attaquée. Elle a identifié des tonnes de choses à faire pour lever ces obstacles à la délivrance des permis de construire. Et il faut le faire. Mais ça, ce n'est pas dans le court terme. Après, sur les coûts, on a besoin de foncier pas cher, enfin de foncier à des prix raisonnables.
Oui.
Il faudrait qu'on arrive à plus monter au cocotier les uns sur les autres, à acheter les terrains de plus en plus cher, mais ça, c'est difficile, on n'a pas la solution. D'une manière générale, le foncier, on dit tous, il faudrait qu'il soit moins cher et plus abondant, mais on ne sait pas comment on va faire ça. Donc la solution, c'est probablement une pause normative. Et moi, je pense qu'on est allé trop loin, trop vite sur les normes environnementales.
Il faut un moratoire,
justement, sur ça. Ce n'est pas très politiquement correct. Mais je pense que je ne suis évidemment pas climato-sceptique. Je pense évidemment que le DPE, l'ARE 2020, le décret tertiaire, etc., Lausanne, tout ça, ça, sa logique, sa légitimité. Tout le problème, c'est le timing. Si on fait tout en même temps, quand en plus ça va mal et que les taux d'intérêt explosent, on ne fait plus rien. Et c'est ça qui va se passer. Et donc, vous allez voir, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on dira, ah ben, ces trucs-là, là, en 3 lettres, les DPE, ZAN, ZFE, si c'est pas mal, là, mais c'est autre chose, la ZFE. Tous ces trucs-là...
ZFE, ça a été reporté, c'est la zone faible émission hein, dans les villes, oui, donc on ne sait pas trop encore quand ça sera mis en place.
Une autre bombe sociale, c'est ouais. Pas notre sujet.
Est-ce que vous appelez justement un moratoire sur toutes ces mesures et
Il faut donner du temps au temps, il faut faire les
donc,
choses.
Donc, pause normative. D'accord.
Il faut faire les choses au rythme où l'économique, le social et l'environnemental arrivent à se combiner de manière équilibrée. On ne peut pas faire passer l'environnement en tout premier au détriment du social. Ça s'appelle les gilets jaunes. On a voulu faire une taxe carbone un matin là, en se rasant et on a mis le feu au pays, notamment les périphéries. C'est exactement la même chose. C'est bien réfléchir et trouver le bon timing. Je ne remets évidemment pas en cause la légitimité. Donc, pause normative, voire... temps d'attente dans la mise en œuvre de ces lois et de ces règles qui ont leur légitimité, parce qu'on a un problème de prix de revient important. Donc peut-être, par exemple, que l'ARE 2025, comme ça a été le cas de l'ARE 2020, il faudrait qu'elle soit mise en vigueur en 2027, puisque l'ARE 2020 a été mise en vigueur en 2022. Donc c'est possible, on l'a déjà fait.
Il y a une petite crise sanitaire entrant, mais c'est vrai que ça a été, pourquoi pas. Si ce n'est pas fait, vous pensez qu'on peut avoir, cette crise du logement peut aboutir sur une crise sociale ?
Mais on l'a déjà. Vous avez 4 millions de mal logés, 2 400 000 personnes qui sont en liste d'attente des commissions d'attribution de logements sociaux. Il manque 1,5 million de logements libres. Je ne sais pas pourquoi on se pose encore la question. Il y a 8 candidats pour un logement en location à Lyon pour une offre.
Oui.
Voilà, ça en fait 7 qui sont furax, frustrés, en colère contre la société. Et c'est extrêmement mauvais pour la cohésion sociétale de ce pays. Donc si ça ne s'appelle pas être dans une crise sociétale, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc on y est déjà. Et donc on ne peut plus la nier. Et donc il faut agir d'urgence. Décoincer la construction neuve et cette problématique offre, coût, demande, parce que vous m'avez un peu coupé avant que j'aille au bout de la demande, des solutions sur la demande, c'est absolument essentiel.
Merci Jacques Herman.
Ah non, un petit mot quand même, sur la demande.
Alors la demande.
Ben, la demande, il faut agir sur tous les créneaux. Donc les particuliers accédants, il faut leur proposer quelque chose de nouveau. Donc par exemple, une nouvelle forme de crédit immobilier, où la partie du terrain n'est pas remboursée. C'est du crédit, in fine, qu'on ne rembourse pas. Donc on paye normalement, comme on le fait aujourd'hui, un crédit sur le logement, mais sur le terrain sous-jacent, on s'endette et on rembourse à la fin. Voilà. C'est ce que font les Suisses, ça marche très bien. Ça s'appelle le crédit hypothécaire. Ça fait beaucoup baisser la pression de la mensualité sur le budget du ménage. Ça, c'est une première idée pour les accédants. La deuxième idée, pour les investisseurs locatifs, on a besoin d'eux. L'État ne peut pas tout faire. On a besoin que des épargnants achètent des T2 et des T3 et les mettent en location. Voilà, c'est tout simplement. Donc aujourd'hui, ils n'y ont plus intérêt puisqu'ils ont 3% de rendement, plein de fiscalité, plein d'ennuis avec les locataires parfois, 4% de taux d'intérêt à payer. Où est l'intérêt ? Et donc, il faut redonner de l'intérêt à l'investissement locatif privé.
Comment ?
Et ça, c'est soit maintenir le Pinel 2022, soit inventer le statut des bailleurs privés et, de manière urgente, faire sauter les règles du HCSF, c'est-à-dire ne pas appliquer à ces gens-là, qui sont très loin du surendettement, la clause du taux d'effort à 35%. Ça, c'est demain matin, on peut le faire. Il suffit que M. Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, mette un peu d'eau dans son vin. Et demain matin, on peut débloquer l'investissement locatif privé. Voilà. Et puis après, il y a les institutionnels privés. Je ne sais pas ce qu'on peut trop faire pour leur redonner envie d'investir dans le logement, puisqu'ils veulent des rendements qui sont incompatibles avec les coûts de production actuels. Et quant aux bailleurs sociaux, effectivement, il faut les inciter à mettre une bonne dose dès maintenant, parce que c'est une mesure d'urgence qui peut tous nous aider.
Voilà. Voilà en tout cas pour non seulement le constat assez brutal, mais également on a des pistes de solutions très détaillées. On verra si...
Il y en a d'autres, mais d'autres en parlent. Alors je pense que Pascal Boulanger a une très bonne idée, qui est de reprendre la mesure de M. Balladur et M. Charette sur l'exonération des droits de succession pendant une durée très limitée pour susciter un courant d'achat et purger le stock que nous avons tous sur les bras. Voilà. À bientôt.
Voilà, en tout cas, les solutions existent. Merci, Jacques Herman. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Altarea. À bientôt sur Radio Imo.
Au revoir.
Le 51e congrès de la FPI France, jeudi 1er juin 2023, au Beffroi de Montrouge, sur Radio Imo.